Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, c'est Clotilde Essay en votre compagnie, au micro de Canal M. C'est une nouvelle fois l'émission des livres plein les oreilles qui vous parvient avec, je l'espère, des bonnes idées, des bonnes suggestions que nous allons vous faire aujourd'hui en compagnie de mes très nombreux invités qui sont d'ailleurs tous en studio et qui font un bruit incroyable. Bonjour.
Bonjour.
Ah, vous êtes d'accord,
bonjour,
c'est ça.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Alors l'émission va s'ouvrir aujourd'hui avec Bernard Tremblay. J'ai écrit Bertrand sur ma feuille de route, mon Dieu, non, avec Bernard, qui devient un habitué de cette émission et c'est tant mieux. Je reçois aujourd'hui l'incroyable Jérôme Minière. Je l'appelle l'incroyable parce que peut-être j'aurais dû dire l'inattendu Jérôme Minière, qui n'arrive, il nous arrive toujours avec des projets qu'on n'attend pas et boum, ça fait mouche. Et puis je reçois également une bénévole que vous connaissez bien maintenant si vous écoutez l'émission régulièrement, c'est Marie Christine Mora. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on va commencer avec Bernard, je pense qu'il est déjà au bout du fil. Monsieur Tremblay, Bernard, bonjour.
Bonjour, Christine.
J'ai failli vous rebaptiser Bertrand.
Ah, vous n'êtes pas la première.
C'est vrai?
Hélas.
Oh, c'est joli, Bertrand.
Ben
bon,
oui.
OK, j'ai rien non plus contre Bernard.
Ah, j'espère que vous préférez les Bernard.
Oui, absolument.
Au moins pour la durée de l'entrevue.
Oh, mais oui, de toute façon, c'est vous que j'aime. Vous savez le nombre de fois que je vous rappelle dans l'année pour venir nous faire une chronique, alors. De quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Alors, je vais vous parler d'un roman de l'auteur Mika Valtteri, qui est un auteur finlandais. Les Amants de Byzance. Ça a été adapté en 2009 par la Magnétothèque.
OK.
C'est un beau roman historique. Mais c'est étonnant comme parfois, en retournant notre regard dans le passé, on reconnaît tellement notre présent.
Ah là là. Ah oui, je vous vois venir. Parce qu'on parle aussi d'une espèce de lieu de fin du monde dans ce livre-là.
Oui, oui. La montée et l'approche du conflit. Le migrant, celui qui est venu de l'extérieur, c'est le personnage principal du roman, Jean Lange, et que les Grecs là-bas appellent Ioannes Angelos, qui est cet être mystérieux et qui est revenu sur place et qui dit qu'il est prêt à mourir en même temps que la ville.
Et parce que c'est au moment où Byzance est assiégée par les Turcs. Hein?
Elle va être assiégée.
C'est ça.
Oui, oui. Et en plus, Jean Lange a fait un certain séjour chez les futurs assiégeants. Donc, il a cette aura. Est-ce que c'est un émissaire secret? Est-ce que c'est un espion? Et il est très discret sur son origine. Mais c'est un homme qui est plein de philosophie, mais en même temps, peut-être un désespoir, l'annonce de la fin. Mais pourtant, dans un événement public, il y aura évidemment un regard qui va croiser le sien.
La rencontre,
mais évidemment dans un moment où tout va se chambouler.
Oui.
Alors, toutes les différences sociales, la richesse, la noblesse et tout ça s'estompent.
Oui, parce que ne nous leurrons pas, ce titre, Les Amants de Byzance, qui pourrait sembler un titre, vous savez, d'une littérature un petit peu légère, mais là, on est vraiment dans un roman d'histoire qui, j'ai même lu à un moment donné, on avait évoqué, à titre de comparaison, si tant est que ce soit bien utile, mais en tout cas, Marguerite Yourcenar, c'est quand même pas n'importe quoi, là.
Et non. Moi qui ai eu le plaisir de lire L'œuvre au noir et Mémoire d'Adrien, de Marguerite Yourcenar,
est-ce que je
serais d'accord.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, oui.
Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous êtes accroché à ce livre, vous, Bernard?
Ah, ben moi, je suis un amoureux de l'histoire.
Oui.
Qu'elle porte un grand ou un petit H. Et je préfère celle avec un petit H. Et il y a tout le travail de Valtteri, qui a fait une belle recherche, apparemment, avant sa rédaction. Il s'intéresse aussi aux petites personnes, aux simples, aux pauvres. Puis eux, au-dessus de leur tête, il y a tous ces tourments qui se passent. Et eux doivent vivre avec, vivre malgré ça et peut-être même mourir dans certains cas. Donc, il y a toutes ces nuances, tous ces personnages, tout cet éventail de personnages dans la ville qu'on découvre tranquillement et nous amène dans des lieux. Par exemple, Sainte-Sophie, Hagia Sophia, ce monument qui est là depuis toujours pour nos yeux d'aujourd'hui. Non, il y a une... Et on s'attache tranquillement à Jean Lange et à Anna Notaras, l'objet de son amour réciproque d'ailleurs.
En sachant que c'est parce que ça se passe quoi dans les 6 derniers mois avant la chute de Byzance.
Oui. Ça débute en novembre 1452 et en juin suivant, la ville va tomber aux mains des Turcs, l'Empire ottoman et tout ça. Et ça va devenir plus tard Istanbul.
C'est ça, exactement. Alors donc, j'imagine, là, moi, parce que je n'ai pas lu ce livre, je me suis un petit peu informée avant de vous en parler, mais j'aime mieux être honnête. Évidemment, vous le savez, Bernard, je ne peux pas lire tous les livres dont il est question ici, mais moi, ce que j'imagine bien, c'est, bon, à la fois, certainement, de l'épique, de l'historique, de la romance.
Oui.
Parce qu'il doit y en avoir aussi quand même beaucoup entre ces deux-là. Pas tant que ça,
non,
finalement.
Non, parce que Jean Lange... est allé là pour un but. Il sait que la ville va être assiégée. Il sait qu'elle va tomber.
Ah, ça, il le sait. C'est un détail important.
C'est clair pour lui, dès le départ. Il sait qu'il va défendre sa ville, mais il sait qu'il va mourir. Pour lui, c'est ça, dès le point de départ. Donc, la fin est annoncée.
OK, c'est vraiment chronique d'une mort annoncée, oui.
Oui. Mais au fil du récit, des jours, des semaines qui passent, ben il y a des rencontres, des échanges avec des personnages plus ou moins influents, importants. S'il est un émissaire secret, ben peut-être qu'on peut l'influencer pour intercéder en notre faveur auprès des Turcs quand ils vont prendre la ville, et ainsi de suite.
Oui.
Donc c'est bien de savoir qui est devant nous, qui peut servir à nos buts, à nos fins.
Oui. Et j'ai lu aussi un avis qui disait que c'est un livre qui nous faisait comprendre à quel point, au 15e siècle, le monde a basculé dans une forme de modernité.
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on pense, par exemple, la ville qui va être assiégée, bien, elle a fait des représentations auprès des puissances de l'époque, qui sont le Vatican.
Oui.
Qui avait une petite flotte, mais qui aurait pu faire basculer l'équilibre des forces. Mais là, évidemment, oui, mais vous êtes les Grecs orthodoxes, vous n'êtes pas tout à fait les catholiques, les chrétiens latins comme nous, donc il faudrait peut-être voir, blablabla.
Oui.
Le jeu de... Ah oui, on va vous appuyer, mais finalement, l'appui est plus du bout des lèvres qu'autre chose. Et on attend des forces qui viendront ou pas. Qui viennent, mais qui sont moins nombreuses, etc. Les appuis flous et incertains et conditionnels.
Mais c'est fou, parce que c'est vrai, comme l'histoire nous rattrape, bon, évidemment, on a tous encore en mémoire les événements récents qui se sont déroulés à Paris. Et je lisais justement un petit extrait, si vous me le permettez. Je trouve que si on se disait que ça pourrait être écrit maintenant... extrait donc de ce livre « Les amants de Byzance » de Mika Waltari. « J'ai jugé de mon devoir, nous dit-on ici, de renseigner Giustiniani sur les sentiments du peuple. Il a conservé son calme et m'a regardé comme si j'étais un imbécile. Il a dit « Aucun homme raisonnable ne souhaite la guerre. Les femmes désirent garder leurs enfants et leurs maris, leur foyer, leur batterie de cuisine. Et si j'étais un commerçant ou un paysan, un ciseleur d'ivoire ou un tisseur de soie, je ne voudrais d'une guerre à aucun prix. Je sais trop ce que c'est. Mais en réalité, le peuple n'a aucune importance. Une dizaine d'hommes armés suffisent pour en imposer à une foule.
Ouais.
Les Romains nous l'ont déjà montré, le peuple ne compte pas. Au besoin, il crie ce qu'on dit de lui crier. Il est comme un bœuf qu'on mène à l'abattoir, les yeux bandés.
Ouais.
Ça glace le sang un petit peu.
Ouais. Hein? Oui, Waltari a rédigé son roman en 1952.
Ah oui?
Déjà. Donc, ça faisait 500 ans que ça
oui.
s'était passé.
Oui, ça vient de me... c'est exactement l'idée que j'ai eue aussi, oui, exactement mais 500 ans après.
On pourrait presque dire que c'est quelqu'un, un analyste dans les journaux ou à la radio
qui
nous parle de la situation de la population d'aujourd'hui. Là.
Ah oui, oui, et quand on dit qu'une dizaine d'hommes armés suffisent pour en imposer à une foule...
Oui.
Ça ne peut pas être plus éloquent. Écoutez,
mais je vous rassure,
oui.
ce n'est pas déprimant.
Ah!
Il y a de la lumière quand même là-dedans.
Au bout du tunnel, oui.
Il y a un moment, un passage dans ce roman qui est d'une telle beauté. Pendant la bataille finale, il y a une femme plus âgée qui va prendre soin des combattants adverses,
oui.
qui est un jeune homme. Il y a à peine l'ombre d'une barbe sur le menton, mais il va mourir.
Oui.
Mais c'est la femme qui elle-même, qui était l'assiégée, qui en prend soin. Donc l'adversaire est celui qui était l'ennemi et celui qu'on réconforte dans ces derniers instants.
Remarquez, mes parents m'ont déjà raconté ça pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Qu'ils avaient déjà, parce que les Allemands, les soldats allemands, souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'était des mômes.
Hein. Ouais.
Ils avaient le casque souvent beaucoup trop grand pour eux. Enfin, du moins, si je me souviens de ce que me racontait ma mère, les soldats allemands n'étaient pas des nazis. Hein. C'était des mômes qui étaient envoyés au casse-pipe avec un espèce de casque qui était bien trop grand pour eux. Puis, en plus, ils crevaient de faim. Et bon, et ça leur est arrivé aussi souvent, quoi, ouais. finalement. Alors, on part sur une note un peu plus rassurante, un peu plus consolante peut-être, Bernard.
Oui, oui.
Je vous remercie beaucoup d'être venu pour nous parler de ce livre Les Amants de Byzance, Mika Valtari, je voudrais l'épeler pour les amis qui nous écoutent, Valtari. Merci beaucoup, Bernard.
Je vous en prie.
Au plaisir.
Au plaisir.
Au revoir. C'est l'heure maintenant de me tourner vers Jérôme Minière. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
J'étais tellement contente de vous voir, de vous retrouver, de savoir ce que vous deveniez, d'avoir entre les mains ce livre dont vous venez nous parler, que je suis en train de dévorer. Il m'en manque plus qu'un petit bout. Et encore une fois, c'est un livre... À chaque fois que j'ai écouté votre musique, Jérôme, à chaque fois que j'ai entendu des disques que vous avez réalisés, je pense à Michel Faubert, tout ça, vous nous avez toujours surpris. Quelquefois, vous nous amenez en électronique, quelquefois, vous nous amenez... En tout cas, vous avez un univers à vous. Et je me disais, mais quel drôle de bibitte que ce Jérôme Minière-là.
Mais des fois, je me lève le matin et et quel drôle de bibitte que ce Jérôme Minière-là.
Depuis tout petit? Depuis tout petit? Tout petit déjà?
Ça a l'air qu'il faut que je m'habitue, là, oui. Je pense que c'est trop tard maintenant.
Mais plus créatif que vous, quand même.
Oui, mais je pense que justement, c'est peut-être lié à une peur aussi, tout simplement. Je pense qu'entre entre les lignes derrière tout ça, c'est peut-être la peur du vide, la peur de plein de choses qui a fait que j'ai développé... Ce monde-là.
Ouais, ce monde-là autour de vous.
Ouais, ouais.
Quand vous étudiez, parce que bon, vous êtes français d'origine, vous êtes né à Orléans, on rigolait tous les deux en se disant qu'on avait Jeanne d'Arc en commun parce que moi je suis né à Rouen. Nous on l'a brûlé, je m'excuse. Enfin, en fait, c'est pas tout à fait nous,
non,
mais bon, on a assisté impuissant à la chose. Non, mais trêve de plaisanterie. Et vous avez commencé en cinéma, vous.
Oui.
Et vous étiez convaincu que vous étiez génial, aussi génial que Xavier Dolan.
ça m'a tellement fait
rire.
Ah ouais, ça me fait rire, c'est parce que maintenant, de faire des anachronismes comme ça, je trouvais ça drôle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pensais que j'étais le futur Xavier Dolan, mais c'était anachronique, parce que c'était il y a 20 ans maintenant.
Ouais.
Et puis,
c'est pas si vieux.
Non, c'est pas si vieux. Mais encore une fois, je pense qu'il y a... Il y a un côté double là-dedans, c'est-à-dire que à l'époque je me connaissais moins. Maintenant j'ai le début de quarantaine, donc je me perçois un petit peu mieux. Avant, je faisais des choses, mais je voulais même pas savoir ce que c'était ou voilà. Et puis ce dont je m'aperçois, c'est que peut-être cette mégalomanie un peu créatrice était inversement proportionnelle à, justement, au fait que je me sentais petit, vulnérable.
Tout petit, vulnérable, oui.
Et c'est vrai, je suis une petite personne, je ne suis pas vraiment un type...
Non, mais c'est pour ça d'ailleurs, c'est que quand on vous voit pour la première fois, que ce soit à l'écran ou en vrai, on se dit, attends, ce type-là a été mégalo au point de... Alors que tu sens que vraiment... D'ailleurs, vous n'avez rien de ça, je veux dire, en apparence,
oui,
quoi.
Oui, mais comme je dis, je pense que c'est un effet de compensation.
Oui, bien sûr.
Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, justement avec ce livre-là, il y a eu le livre que je viens d'écrire, il y a eu un peu ce travail-là, en fait, où c'était un peu de régler peut-être certains comptes avec ma mégalomanie.
L'enfance de l'art. C'est donc le titre de ce livre qui est maintenant disponible en version audio adaptée, et bien évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Je voudrais d'abord vous dire que j'ai été... j'allais dire personnellement extrêmement touchée, ça peut pas être que personnel parce qu'il y en a d'autres qui ont lu ce livre et ils ont dû ressentir la même chose. Mais lorsque, en page 10, parce qu'il y a quand même beaucoup de vous là-dedans, hein, on s'entend, le personnage est né à Orléans, etc. Bon, lorsque vous parlez de vous en tant que migrant, et je vais vous dire, je pensais que j'avais été la seule... À plusieurs fois dire ce que j'ai lu ici et je suis tellement heureuse. Honnêtement, j'en ai eu les larmes aux yeux, je voulais vous le dire.
Non, merci.
Non, mais parce que je me suis dit, waouh, je ne suis pas toute seule à avoir pensé ça. Je vous lis vite fait.
Okay.
Il dit dans ce livre, Jérôme Minière, il est vrai aussi que j'ai changé de pays et mis l'océan Atlantique entre mon ancienne vie et la nouvelle, ce qui peut être perçu comme un geste radical. Pourtant, je considère être un immigrant des plus normaux. Déjà rien que ça. Quand je suis devenu citoyen canadien, j'ai prêté serment à la reine d'Angleterre lors d'une cérémonie de groupe, moi de même. À ma grande surprise, j'ai été submergé par une puissante émotion que j'ai tenté de camoufler comme je le pouvais. Pas à cause de la reine, ni du Canada, ni de ces gens comme moi qui peuvent à tout moment décider de retourner dans leur pays d'origine, mais bien parce qu'il y avait là des hommes et des femmes au bord des larmes, venus de régions ravagées par la guerre et la violence, qui avaient laissé leur ancienne vie derrière eux pour toujours, afin d'échapper au massacre. Et ça, je trouve que c'est un extrait qu'on devrait mettre dans les journaux en ce moment, dans les écoles et partout. Non, honnêtement, j'ai vécu la même chose que vous, à tel point que j'y allais en rigolant.
Oui, c'est ça. Ça, c'est le côté français.
Mais oui.
Voilà. Bon, prêter allégeance à la reine, c'est sûr que...
Bon. Mais du coup, on y va tout seul. En tout cas, moi, là, je suis allée toute seule. Je me suis dit, qui je vais amener là? Sauf que quand vous voyez des familles serrées, les uns contre les autres, qui montent, parce que moi, ça se passait dans une église, alors qui montent dans la nef, comme ça, et lorsqu'ils reviennent, ils ont le papier entre les mains. Et le père pleure, la mère pleure en silence, hein, évidemment, ce ne sont pas des cris. Et là, tout d'un coup, tu te sens cheap et tu dis, merde, le geste hein, qu'on a posé, vous et moi, Jérôme, c'est un geste important. Et il aurait mérité qu'on soit un peu plus respectueux.
Oui.
Peut-être pas par rapport à la reine d'Angleterre, mais je veux dire par rapport au fait d'avoir choisi, nous, d'avoir pu choisir, surtout dans le contexte que nous vivons en ce moment. On va revenir à cette enfance de l'art, qui commence avec les pigeons sur la rue Saint-Hubert.
Oui.
Et écoutez, c'est pas un livre évident, mais
non.
Je vous dis, mais accrochez-vous après les 20 pages, parce que, voilà.
Il faut aimer se faire un petit peu...
Balloter.
Balloter, c'est ça, mener en bateau.
Oui.
Puis comme je te le disais tantôt, Clotilde, parce que toi, t'es pas encore à la fin, je révélerai rien, mais j'ai quand même eu la décence de résoudre cette équation-là. C'est-à-dire que il y a des fausses pistes et ça peut être un petit peu perturbant au début, mais je me suis pas moqué de vous.
Non, c'est voilà. Ça. Et il y a surtout que sur ces pistes-là, vous nous faites découvrir des gens qui sont absolument fabuleux. D'ailleurs, il y en a peut-être un qui est un fabulateur de première, j'en dirai pas plus, hein, au départ, que lui on peut le dire parce que de toute façon, il est vraiment qui est le Duke of North East, Saint-Hubert.
Oui. qui est inspiré quand même de quelqu'un... en fait, on s'inspire toujours de gens qu'on croise, mais pour faire une histoire très, très courte, mon père est psychiatre. Et quand je suis né, il était à l'époque étudiant en médecine et il était interne, donc dans un hôpital psychiatrique près d'Orléans. Et donc, j'ai passé mes deux premières années dans un appartement qui était dans l'hôpital, en fait. Et donc, il y avait un parc avec des personnes qui circulaient un petit peu étranges pour moi, en tout cas. Bon, j'ai pas de souvenir conscient. C'est un ami à moi qui est plus âgé qui m'a raconté ces choses-là. Pourquoi je disais ça?
Ben, c'est parce que vous l'avez, c'est ça, c'est un personnage que vous avez connu.
Et donc, depuis mon enfance, j'ai toujours été très troublé et touché par les personnes que je croisais sur la rue qui étaient un petit peu, qui semblaient étranges ou perdues. Et puis, comme nous tous, dans un quartier, on croise toujours régulièrement des gens qui sont un peu particuliers, quoi, dans des grandes villes. Et ça m'a toujours beaucoup frappé, touché, interrogé. Et donc, je voulais de toute façon qu'il y ait un personnage comme ça. Mais entre autres, la racine de ce personnage-là, c'est vraiment sur ma rue, parce que j'habite réellement donc, dans ce quartier, près de la rue Saint-Hubert. Il y a une quinzaine d'années, il y a un étrange personnage avec une longue barbe, une sorte de vieil itinérant qui était venu s'adresser à moi. Et il se faisait appeler Boom.
OK.
Et il disait... Si t'as besoin de moi, t'appelles, tu dis boum et j'apparaîtrai. Et donc c'était en fait encore plus fou que dans le livre, je dirais. Mais mais c'est ça. Et il m'avait presque fait peur parce que il me connaissait, c'est-à-dire je pense qu'il passait beaucoup de temps dans les bibliothèques, il lisait beaucoup et il connaissait mes faits et gestes, etc. Il savait que je faisais de la musique, etc.
Ouais, ouais.
Et à la fois je l'avais trouvé fascinant, un peu inquiétant et en même temps charmant et et il y a un peu de ce personnage-là.
Il y a un petit peu aussi de Boom dans The Duke. Alors, ce duc-là qui vous donne à un moment donné une clé, qui vous donne accès à une pièce vide où vous irez lire.
Oui, c'est ça.
Hein? Ça aussi, on peut le dire parce que c'est relativement au début. Et on va même dire qu'à un moment donné, c'est ça, hein, vous lisez un conte d'un certain... Régent du Charme.
Oui.
Et que, alors là, déjà, alors on se dit, bon, est-ce que c'est le vrai?
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Bon, déjà qu'on ne l'a jamais vu. En plus, il est génial, ce conte. C'est que je l'ai beaucoup. Enfin, en tout cas, cette histoire-là, je l'ai vraiment aimé énormément. Attendez, je suis en train de la rechercher. Mais...
Peut-être la meilleure façon que j'aurais d'expliquer ces idées-là, c'est tout simplement une analogie avec peut-être les Mille et Une Nuits. C'est-à-dire qu'au fond, c'est des récits enchâssés dans un récit premier. Et qui vont se répandre, en fait.
À un moment donné, qui vont se répandre.
Si on accepte d'être embarqué là-dedans, tout va bien.
Et alors, il est question aussi alors, d'un rêve de jeunesse.
Oui.
Hein?
Oui, tout à fait.
Exactement. Bon, là, ça, je n'en dirai pas plus, mais bon, vous avez...
Non, parce que je ne sais pas jusqu'où tu es dans le livre.
Je suis plus loin que ce que les petites notes veulent bien le dire. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de noter parce que ça m'énervait, parce que je perdais trop de temps à noter.
Mais il y a eu aussi un passage où il y a un attentat, justement, mais ça, je ne sais pas.
Ah non, je ne suis pas arrivée là.
Bon, je ne dis rien. OK. Bon, je pensais que tu étais plus loin que ça.
Ah non, je ne suis pas...
Tu as encore beaucoup de chemin de...
Ah oui, j'ai
de navigation.
On a appelé ça, un roman gigogne pour faire référence aux poupées, mais moi, j'appelle plutôt ça un labyrinthe littéraire.
Un labyrinthe, tout à fait.
Parce que, mine de rien, même si un chemin ne nous amène pas là où on pourrait le penser, il nous amène de toute façon quelque part.
Ouais.
Et alors, une galerie de personnages vraiment saisissant. Et alors, on se dit à un moment donné, justement, puis ça, on s'en parlait un petit peu tout à l'heure, que vous êtes le pigeon parmi les pigeons. Parce qu'au départ, hein, les pigeons, ils sont importants là-dedans, hein, sur la rue Saint-Hubert.
C'est une métaphore, mais c'est vrai que c'est cette idée que... Grosso modo, ce qui est raconté, c'est comme une sorte de thriller, mais de l'âme, en fait, c'est-à-dire de l'inconscient du personnage. Et donc, il y a une enquête, mais qui est une enquête sur l'imaginaire. Et la ligne de frontière entre le réel et l'imaginé. Et la ligne, en fait, va de plus en plus floue au fur et à mesure du livre, sans révéler tout.
Non, c'est ça.
Donc, c'est une enquête sur, finalement, la fiction, le fait que nous tous, on se raconte des histoires, pourquoi on se les raconte et jusqu'où on doit les croire, en fait.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit ce livre comme vous composez de la musique? Parce que musicalement, vous êtes toujours très surprenant. Là, c'est pareil. Moi, je trouve que votre musique, souvent, surtout quand vous avez fait beaucoup de musique électronique, ne cadre pas avec le personnage.
Oui.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'ai l'impression que c'est une idée par-dessus l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se préparer, ça? Est-ce que vous aviez un canevas très précis pour ce livre-là?
En fait, ça s'est construit sur des années.
Ah oui, quand même.
La façon de ramasser l'ensemble, ça a été le travail final, en fait.
OK.
Mais c'est vrai que je travaille souvent par superposition et j'aime qu'il y ait des choses contradictoires. Alors, pour moi, le fil conducteur, c'était de garder une écriture assez... C'est pour, un peu paradoxal à dire, mais assez plate. Mm-hmm. Parce que si j'avais un style, disons, farfelu en soie ou en poulet, vu que la structure, les idées sont folles et
ça aurait été trop.
Ça aurait été trop. Déjà là, c'est pas si facile.
Bon, je voudrais vous faire entendre un tout petit extrait de ce livre lu par un de nos bénévoles. On va en entendre quelques mots.
Je suis né dans un pays moyen, de par sa superficie, sa culture et son économie, la France. Venu au monde dans une région elle-même moyenne, qui par défaut a été nommée centre parce qu'elle se trouvait coincée tout au milieu, juste en dessous du vrai centre névralgique du territoire, Paris. On m'a inscrit à l'état civil dans une ville moyenne, elle aussi, Orléans. Logiquement, mes parents appartenaient à la classe moyenne et j'ai vécu une enfance et une adolescence on ne peut plus normale. J'ai passé le bac avec des notes moyennes, puis étudié l'économie à l'université, sans me distinguer de la moyenne des étudiants. Être un type sans histoire me convient très bien. Me fondre dans la masse, ne pas dépasser la limite, ne pas dire un mot plus haut que l'autre.
Ça vous fait rire! Ça, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça, Jérôme?
En fait, c'est le fait que ça commence, comme je disais, de manière très, très plate, c'est-à-dire quelqu'un qui revendique qu'il est sans histoire, qu'il est absolument moyen, qu'il n'y a rien qui dépasse... Tout est très plat comme ça, donc c'est ça. C'est vraiment un peu un piège parce que la suite va être un petit peu...
Oui, ensuite, oui, la suite va nous prouver que le livre n'est pas plate comme le personnage veut bien le dire. Est-ce qu'il nous reste une petite minute? Vous êtes un gros lecteur? Vous lisez beaucoup, Jérôme Minière?
Il y a eu différentes périodes.
Ah, OK.
Ouais. Okay. D'ailleurs, j'en parle un peu dans ce livre-là. Il y a un moment, je parle des différents rapports à la lecture.
Oui, ah ben juste, ben voilà, là j'étais dessus, là, dans la page 74, là, il y a tout...
J'ai été plusieurs types de lecteurs.
Oui, c'est ça, il y a vraiment...
De ma vie.
Ah oui, puis vous parlez de Mahler aussi, Gustave Mahler aussi.
J'ai eu par exemple une période où j'avais peur de terminer les livres. Ouais. Ça a duré assez longtemps, et j'ai même étudié en littérature sans être vraiment capable de les terminer.
Ça va mieux?
Ça va mieux.
Bon, ben on est
content. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai commencé à les terminer, pour vrai.
Ah, OK. Merci beaucoup, Jérôme Minière. Ça a été très agréable de vous retrouver. Merci infiniment. L'enfance de l'art de Jérôme Minière. À lire. Des livres plein les oreilles. Je voudrais préciser à ceux qui nous entendent aujourd'hui que nous avons enregistré cette émission il y a 2 semaines. Je le précise parce que nous, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes évidemment pleins d'espoir que les événements que nous venons de connaître à Paris ne se renouvelleront pas ni à Paris ni ailleurs dans le monde, mais... Allez savoir. Alors, je voulais le préciser pour ne pas qu'il y ait d'impair ou qu'on pense qu'on n'est pas au courant ou je ne sais pas quoi. Surtout que j'accueille maintenant mon amie Marie-Christine Mora. Et Marie-Christine, là encore, le livre était choisi avant que les événements à Paris, en tout cas ceux du 13 novembre, arrivent. Et c'est un livre qui est, encore une fois, dans le sujet. Et j'aimerais que vous nous le présentiez.
Oui, bonjour Clotilde. Ben oui, malheureusement.
Mais oui, bonjour pour Marie-Christine.
Oui, malheureusement, c'est un livre qui est encore un petit peu dans le sujet, enfin du moins dans la réflexion de tout ce qui peut être autour de la religion, la liberté d'expression, et puis les dérives religieuses et la violence, malheureusement. Donc c'est un livre que j'ai trouvé très très fort et puis très éprouvant, très émouvant. Alors, ça raconte la vie de trois personnages entre les années 1940 et puis les années 2000. Donc, on les suit quand même sur trois générations.
On va donner le titre, peut-être, Marie-Christine, c'est...
Donc, ça s'appelle « Je suis interdite ».
Oui.
Et c'est de Anouk Markovitz.
D'accord, qui s'appelle M-A-R-K-O-V-I-T-S.
C'est ça, voilà. Donc, l'histoire, c'est effectivement l'histoire de trois personnages. On les découvre d'abord enfants. Alors, il y a Joseph, il y a Mila et puis il y a Atara. Alors, Joseph, Mila et Atara sont des enfants juifs. Donc, qui ont été, au tout début de leur vie, très ébranlés par la guerre, puisque bon, voilà, leur famille, enfin, du moins en ce qui concerne Joseph et puis Mila, ont été tués. Donc Joseph a d'abord, lui, été placé chez une ancienne nourrice, une jeune femme catholique qui va l'élever pendant 7 ans. Et puis au bout de ces 7 ans, il va se retrouver propulsé aux États-Unis dans, dans une institution juive. Donc encore une rupture pour lui, parce qu'il était déjà passé du statut de petit enfant juif. Il devient catholique, il faut qu'il cache sa religion. Et puis là, plouf, on le remet dans
sa... On le replonge ailleurs.
Et puis il y a Mila, qui elle est élevée chez un rabbin, le rabbin Salman Stern, qui est rabbin au sein d'une communauté juive hassidique.
Okay.
Il a été obligé de fuir la Transylvanie avec toute sa famille et il s'installe à Paris. Donc Atara, la fille aînée du rabbin, elle adore Mila. Elles sont élevées toutes les deux exactement de la même manière, comme deux sœurs. Elles ont évidemment la même confession, mais très vite, leur différence s'affiche.
S'impose, oui.
Mila, elle accepte tout. Alors qu'Atara, beaucoup de critiques que j'ai lues à propos de ce livre, ont dit Atara se rebelle. Moi, je ne trouve pas qu'elle se rebelle, Atara, d'abord. Je dirais plutôt qu'elle s'interroge. Elle ne juge pas, elle voudrait simplement comprendre, apprendre... Mais ce qui néanmoins, évidemment, dans une communauté hassidique, où on vit dans la crainte du Père, parce que dans la crainte de Dieu, ben, on n'a pas le droit de se poser des questions.
Tout est
interdit. Alors Atara, elle commence par se soumettre pendant des années, mais néanmoins, elle continue à vouloir comprendre. Alors elle se cache pour avoir accès au savoir, elle fréquente beaucoup les bibliothèques, donc effectivement, elle obtient des réponses à ses questions, et elle se heurte à des lectures défendues, puis elle s'interroge sur son quotidien parmi les siens, où elle a l'impression que l'individu ne peut jamais être sujet de sa vie, mais toujours l'objet de Dieu, ou la dite loi, celle des textes religieux, de la Torah, la seule loi que respecte et impose son père, ben justement, interdit de penser, de questionner, où la soumission au groupe, à la communauté entière, est absolument obligatoire. Alors, ce qu'il y a de très fort dans ce livre, c'est que peu à peu, en fait, l'auteur nous plonge, évidemment, dans un univers qui, nous est totalement inconnu, où l'on découvre des rites attachés à une façon d'être, ou plutôt, je dirais, à une façon de pas être.
Oui, c'est ça.
On n'a le droit à rien, pas même au sens du frisson. On n'a pas le droit de jouer, on n'a pas le droit de, rire, on n'a pas le droit d'être éduqué, encore moins quand on est une fille, un petit peu jusqu'à l'âge de 12 ans, puis après plus. Et puis après, on doit être marié, puis s'occuper de sa famille. Et puis... Donc c'est quand même très, très fort, mais en même temps, elle juge pas. Elle écrit, elle décrit, elle observe. Mais il n'y a jamais de haine, jamais de colère dans son livre. Alors, c'est vrai que c'est d'autant plus fort parce que quand on regarde qui est Anouk Markovitz, ben, en fait, c'est une jeune femme issue d'une communauté juive hassidique qui, à l'âge de 19 ans, a décidé de stopper, de partir. Et puis, elle a assumé sa vie. Alors, ce qu'elle suggère, enfin, moi, c'est une interprétation personnelle, évidemment, c'est que, voilà, Atara... Évidemment, c'est un peu elle, c'est un peu son parcours. Elle est partie, elle a rompu. Je ne vais pas livrer le reste de l'histoire, mais elle s'assume. Elle assume son... Puis elle n'impose rien à personne.
Elle assume ses choix.
Voilà. Mila et Joseph, eux, ils se retrouvent d'ailleurs, après avoir été enfants séparés, ils se retrouvent. On les marie de force, mais ça tombe très bien. Je dirais, non, pas de force, parce que finalement, ils s'aiment sincèrement.
Okay.
Donc, tout va bien de ce côté-là. Sauf que s'aimer dans ce contexte-là, c'est un petit peu particulier. Hein. On n'a pas le droit de montrer son amour. On n'a pas le droit de se toucher. On n'a pas le droit, évidemment, de faire l'amour, excepté à certains moments, quand c'est autorisé. Et
pour
en répondant à certains codes,
oui,
etc. Donc voilà, eux, ils vont vivre avec ça. Ils veulent à la fois, évidemment, préserver leur amour, qui est sincère, et puis préserver leur foi aussi. Mais il va leur arriver dans la vie quelque chose qui fait qu'ils vont avoir bien du mal à jongler avec tout ça. Et ils vont combattre avec tout ça pendant des années et des années. Et quelque part, là où Atara, effectivement, est partie, donc on pourrait dire elle a trahi. Eux, ils vont... Moi, je considère qu'eux, ils vont trahir, mais d'une autre façon. Ils vont, okay. Ils vont pas l'assumer. Ils vont... Et je trouve que, quelque part, leur trahison est encore plus,
plus forte.
Non, pas parce qu'ils l'assument pas, loin de moi l'idée de les juger, mais parce que finalement, ce qu'ils font entraîne pendant des générations, et notamment à la fin du livre, que je ne révélerai pas non plus, bien sûr, tout le monde dans un espèce de contexte absolument insupportable. La fin est vraiment bouleversante. On voit le poids de ces idées, de toute cette éducation comme ça, contrariée, répondant à des règles, etc. On voit ce que ça fait. Puis même, ils essayent, surtout Mila, elle essaye quelque part, elle trahit. Mais on se dit quelque part, elle essaye même d'être convaincue qu'elle n'a pas trahi ou de donner une autre interprétation des textes.
Ouais, ouais.
Non pas pour se déculpabiliser, mais parce qu'elle ne veut pas avoir trahi ni sa foi, ni son amour. Mais c'est particulièrement...
Avez-vous un petit extrait, Marie-Christine?
Alors, j'ai un petit extrait. J'ai eu du mal à me dire lequel j'allais choisir. Alors, j'ai choisi celui-là qui est fort. Mais voilà, elles avaient joué, toutes les deux. Elles avaient joué au jardin des Tuileries. Et on n'a pas le droit de jouer, on n'a pas le droit de rire, on n'a pas le droit de faire de la bicyclette, surtout quand c'est Shabbat. Donc, le père l'apprend. Alors, il prend sa fille, il lui dit « Reste ici », a ordonné Salman. Il défait sa ceinture. Mila s'est figée sur le seuil. Atara a plongé sous la méridienne. Salman a dégagé la méridienne du mur. Atara s'est déplacée pour rester à couvert. La méridienne a tangué sur la droite, sur la gauche. Atara a plongé à droite, à gauche. La méridienne s'est soulevée, a oscillé, et la colère de Salman a redoublé. « Tu ne fais qu'aggraver ton cas, sors de là !» Atara s'est immobilisée. Salman a tendu la main vers elle. Sayyad Sazaka, sa main toute puissante, modelée sur celle de Dieu. Il a tiré sa fille jusqu'à lui, l'a couchée en travers de sa cuisse, a baissé son pyjama. Même les enfants en bas âge ne se montraient pas nus dans la maison de Salman.
Ouf.
Mon enfant se moque de la parole de Dieu en public ? La ceinture a cinglé, l'air et les fesses d'Atara. Elle gigotait en tous sens, essayant de s'échapper. Un profanateur du sabbat, un homme qui ramasse du petit bois le jour du Shabbat, la congrégation tout entière doit le lapider. Mila tressaillait à chaque coup de ceinture. Le fils rebelle, ce sont les parents qui doivent le lapider. La ceinture cinglait. Salman, ça suffit, non ? A plaidé Anna, la mère. Ne t'en mêle pas, je briserai le sécularisme, coup de ceinture. Le sionisme, coup de ceinture. La modernité, coup de ceinture. Atara ne criait plus. Répète après moi, jamais plus je ne transgresserai le Shabbat, ni aucun des jours saints du Seigneur. La fille a répété les mots en octant. Salman l'a relâché. Voilà.
Oui,
pour avoir fait de la bicyclette.
Mais ça doit pas nous aider à regarder après les familles comme moi. Je voudrais toujours regarder les familles hassidiques que nous croisons ici avec bienveillance, avec.
Alors non, mais là-dessus, je vais reprendre quelque chose de l'auteur parce que j'ai trouvé que c'était important, que j'ai trouvé dans le journal Libération. Lorsqu'elle a commencé à travailler sur ce texte, ses agents littéraires l'ont encouragée à retracer sa trajectoire, celle de la jeune fille qui un jour est partie se construire ailleurs. Mais Anouk Markovitz a fait l'exact opposé, choisissant la fiction et la place de ceux qui demeurent. D'un côté, j'avais fait des choix personnels qui rejetaient le milieu duquel je venais, et de l'autre, je savais que les gens qui choisissent de rester dans ces milieux ne sont pas des intégristes fous, mais des gens comme nous, pleins de désirs et de conflits.
Ouais.
Elle n'a jamais été en fait dans la haine, elle ne l'excuse pas, elle ne comprend pas, elle ne partage pas. Mais ce qu'elle essaye de dire aussi, c'est comment faire, elle, nous on va dire elle s'en est sortie, mais comment faire pour s'en sortir quand depuis sa plus tendre enfance, on est élevé comme ça, étouffé avec des règles pareilles. Mais je peux vous dire que quelque part, je trouve que effectivement Mila et Joseph... ils sont bien vengés, entre guillemets.
Entre guillemets. Non, mais rien que pour ça. Et vous l'avez bien vendu, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien savoir comment.
Oui, sauf que dommage, la fin est vraiment... Ouais. Bon, là, ils ont raté leur coup.
Dans Libération, on écrivait, et ça rejoint tout à fait vos propos, Markovitz craint les amalgames. Chacun de ces mots est sous-pesé. Il ne s'agit pas d'une mise en accusation, mais plutôt d'une immersion. Hein, c'est bien ça, d'un exercice d'empathie où la Torah fait consigne.
C'est ça.
Je suis interdite par Anouk Markovitz, qui nous était présentée aujourd'hui par Marie-Christine Mora. Marie-Christine, vous n'allez pas me croire, et Jérôme non plus. Jérôme est resté avec nous. Merci beaucoup, Jérôme, c'est très sympathique. Vous allez penser que j'ai fait exprès de vous parler du livre qui vient maintenant, mais je tiens à préciser que, encore une fois, le choix du livre et de l'invité de la semaine prochaine ont été choisis avant les événements du 13 novembre à Paris. La semaine prochaine, je vais retrouver en ce studio, je vais inviter dans ce studio Rima El Khoury. Rima El Khoury, journaliste de la presse, qui a sorti il y a quelques mois un livre qui est maintenant disponible, bien sûr, en version audio adaptée. Un livre qui s'appelle « Pas envie d'être arabe ». Et en fait, c'est une compilation de beaucoup de ses écrits, elle qui a écrit avec ce nom arabe qu'elle porte, même si elle est née à Montréal. Et je voudrais simplement vous lire le début du livre, parce que vous allez comprendre comment cette femme s'est retrouvée avec une plume à la main, si j'ose dire, mais dans un contexte pour le moins difficile. Comment je suis devenue chroniqueuse arabe? J'ai été nommée chroniqueuse à la presse un certain 10 septembre 2001. Le 11, bien malgré moi, je suis devenue chroniqueuse arabe. Je n'ai jamais voulu de cette étiquette. Pas envie d'être arabe, c'était le titre de ma première chronique. Non pas qu'il y ait dans mes origines quoi que ce soit de honteux, c'est juste que l'idée de me retrouver dans le camp des suspects, aux côtés de millions de gens pas plus suspects que moi, ne m'intéressait pas. Jusque-là, jusqu'au 10 septembre 2001, le racisme m'était une chose étrangère. Je suis née et j'ai grandi à Montréal, entourée de gens qui avaient des noms souvent bien plus exotiques que le mien. Mon père, qui a déposé ses valises au Québec en 1967, m'a toujours dit que nous étions citoyens du monde. Longtemps, je n'ai même pas su que j'étais une minorité visible. Le pire qui m'était arrivé, c'était de me faire traiter de chameau et d'en rire. Mais voilà que du jour au lendemain, dans un univers médiatique post-11 septembre, beaucoup plus homogène que ne l'est la société, j'étais devenue sans le savoir une sorte de porte-parole arabe par défaut. Que je le veuille ou non, ma parole individuelle était nécessairement lue par plusieurs comme une parole collective. Je n'étais pas assez arabe pour certains, je l'étais trop pour d'autres, coupable par association. C'est cette femme que je reçois la semaine prochaine. C'est quelqu'un que j'ai l'occasion de lire assez régulièrement dans le cadre de mes activités matinales ici, à Canal M, dans le cadre de l'émission Les Voix de Service. Une personne qui, je trouve, a énormément toujours d'acuité, d'émotion, sans jamais tomber dans le larmoyant. Notamment, c'était l'été dernier qu'elle avait fait tout un dossier justement sur sa famille syrienne, toutes ses origines, parce qu'elle est d'origine syrienne, Rima El Khoury. Et j'avais été complètement passionnée par ce dossier-là. Je ne sais pas si vous l'aviez découvert l'un ou l'autre, mais j'ai tellement envie. Et je parle un petit peu au conditionnel. J'aimerais tant qu'elle soit là parce que c'est convenu. Elle m'a dit son OK, elle sera là avec nous. Mais au moment où je vous parle, elle vient de partir pour Paris pour couvrir pour la presse les événements que l'on sait. Alors, elle m'a promis qu'elle est censée rentrer la veille de l'enregistrement. Nous verrons bien, mais moi, je prends la liberté de dire qu'elle sera là, Rima El Khoury, pour nous dire pourquoi, mais comment non, mais pourquoi elle n'a pas envie d'être arabe, et on peut le comprendre par les temps qui courent, et c'est peut-être ce qui fait d'ailleurs que ces articles sont si extraordinaires à lire. En tout cas, moi, c'est quelqu'un que j'ai très, très hâte de rencontrer. Voilà pour Rima El Khoury, donc, que nous recevons à l'émission la semaine prochaine. À ce moment-ci de l'émission, j'aurais pu m'entretenir avec l'ami Gérard Saint-Denis, qui aura peut-être quelques minutes de retard. Qu'à cela ne tienne, on va y aller avec les titres en rafale. « Alors, je vais d'abord vous proposer Les Nuits de Reykjavik d'Arnaldur Indriðason. Je suis convaincue que ça ne se prononce pas comme ça, mais ce n'est pas dramatique. C'est un excellent polar, apparemment, qui nous fait vivre les débuts dans la police du célèbre commissaire Erlendur. Nous sommes en 1974 à Reykjavik. La nation islandaise s'apprête à célébrer ses 1100 ans de colonisation de l'île. Cérémonie qui aura lieu à Þingvellir, ce mot voulant dire plaine du Parlement. C'était le site de l'Alting, l'assemblée plénière représentant l'Islande. Alors le commissaire Erlendur, qui a tout juste 28 ans, il est tout jeune, qui doit démêler une affaire, ma foi, bien difficile, un clochard qui a été retrouvé noyé à proximité du pipeline où il avait trouvé refuge. Et la veille de sa mort, une jeune femme a disparu. Alors les deux affaires sont-elles liées ? C'est ce que vous aurez l'occasion de découvrir si vous lisez ce livre d'Arnaldur Indriðason, dont on dit le plus grand bien. Ça s'appelle, je vous le rappelle, « Les nuits de Reykjavik ». Il y a un homme qui enchaîne les livres historiques à l'appel, comme des grands, des beaux, grands romans d'aventure. Vous le connaissez peut-être, c'est Christian Jacques. Il obtient énormément de succès des deux côtés de l'Atlantique. Et bien, cette fois-ci, en livre audio adapté, on vous propose ici les enquêtes de Setna, S-E-N-T-N-A. C'est le premier tome qui s'intitule La tombe maudite. C'est une nouvelle série, ce sont des nouveaux personnages. Figurez-vous qu'il y a déjà 4 volumes qui sont parus. Décidément, c'est un écrivain prolifique. Alors, les gens, les fâcheux vont dire « Quoi encore ?» Mais la qualité va en pâtir. Les amateurs vont dire « Enfin, de nouvelles aventures !» Ce livre paru en 2014, c'est le premier tome des enquêtes de Setna, le fils de Ramsès II, qui nous ramène plus de 3000 ans en arrière, sous le règne du plus célèbre pharaon de la 19e dynastie. Ramessou, son fils aîné, ne rêve que d'armées, de combats et de conquêtes, tandis que Setna, son cadet, scribe et magicien, ne pense qu'à devenir ritualiste et serviteur des dieux. Alors que chacun essaie de faire sa place auprès du souverain, un acte de gravité extrême est commis, menaçant de mettre en péril la stabilité du royaume. Je ne vous en dirai pas plus. Les enquêtes de Setna, de Christian Jacques, La tombe maudite. C'est le premier de ces volumes. Pour l'instant, il y en a 4, mais apparemment, il y en aura d'autres. Ok, changement de sujet complètement, l'art d'avancer en âge naturellement et sereinement, et c'est signé, je vous jure que c'est une seule personne, Claude Suzanne Didier Jean Jouveau. Bonne nouvelle, on vit aujourd'hui de plus en plus vieux, ça on le sait, mais ce défi ne passe pas seulement par les progrès de la médecine et l'accompagnement des siens, mais aussi par une prise en charge personnelle, active, aussi bien physique que psychique, et le maintien, voire la création de liens sociaux. Vous aider à avancer en âge tout en restant actif, en forme, en bonne santé ? Eh bien, tel est l'objectif de cet ouvrage, car la nature a bien fait les choses. Le corps lance des messages d'avertissement, mes amis, les modifications physiques, les problèmes de santé. Faut apprendre à les écouter. Hein, c'est pas seulement les cheveux blancs, c'est un petit peu tout. Et puis par ailleurs, le temps qui passe, qui modifie notre rapport à la société et aux autres. Les petits-enfants sont là, la retraite arrive, aïe, aïe, aïe. Alors voici un livre qui aborde les thèmes aussi indispensables que les signes de l'âge, la sexualité, les loisirs et autres activités, l'entraide, la société, et donne une multitude d'informations pratiques qui vous permettront d'avancer en âge en toute sérénité et surtout très bien informé. Et ceci dès 50 ans. Ben là, oh ben là je le prends pas. En rafale encore, un livre de Laurent Gounel, G-O-U-N-E-2-L-E, « Le jour où j'ai appris à vivre ». Et si tout commençait aujourd'hui, imaginez, vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche et soudain, il y a une bohémienne qui vous saisit la main pour élire votre avenir. Amusée, vous vous laissez faire, mais dans l'instant, son regard se fige, elle devient livide, parce que ce qu'elle va finalement vous dire, vous auriez préféré ne pas l'entendre. Alors à partir de là, rien ne sera plus comme avant. Il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle et c'est ce qui va arriver à Jonathan dans ce nouveau roman de Laurent Gounel. À la suite de cette rencontre troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi, ponctuée d'expériences qui vont changer radicalement sa vision de sa vie, de la vie. C'est un nouveau roman lumineux et positif de Laurent Gounel par l'auteur de L'homme qui voulait être heureux ou encore Les dieux voyagent toujours incognito et le très célèbre Le philosophe qui n'était pas sage. Mais j'en ai d'autres encore pour vous. Je refuse de Per Petersen. Les échos ont dit de ce livre « Je refuse » est avant tout l'histoire d'une puissante amitié rompue à la fin de l'adolescence et qui ressurgit 35 ans après lors d'une rencontre fortuite à l'aube sur le pont suspendu d'Ulvoya. Bibliothécaire dépressif en arrêt de maladie depuis un an, Jim vient pêcher tous les matins à cet endroit. Tommy, cadre qui a réussi dans la finance, ne fait que passer dans sa voiture de luxe. Que sont-ils devenus, ces hommes lucides qui pleurent, des hommes qui se cherchent, des hommes qui savent pertinemment qu'il est impossible de regarder en même temps en avant et en arrière si l'on veut avancer. Mais ont-ils encore envie d'avancer? C'est ce que vous propose ce livre « Je refuse » de Per Petersen. Alors voilà pour les rafales pour cette semaine et nous sommes très heureux parce que nous avons Gérard Saint-Denis en ligne. Bonjour Gérard.
Bonjour madame.
Comment allons-nous?
Ça va bien. Avec les événements qui se passent depuis 15 jours à Paris, je me demande si on peut se permettre d'avoir des livres pour rire. Mais je me suis dit après, ils n'auront pas notre peau.
Ben
c'est
non.
Ça, hein?
Oui.
Faut pas changer nos habitudes.
Non, c'est ça. Et puis savez-vous, en plus, on a eu une émission où on a parlé de choses justement pas faciles parce que le hasard a voulu que les livres dont nous avons parlé aujourd'hui, ils ont été choisis bien avant. Les événements. En plus, j'ai prévenu nos auditeurs que nous avions enregistré cette émission il y a 2 semaines. Ils savent donc que nous l'avons enregistrée très peu de temps après les événements de Paris. Et je pense que ça va nous faire du bien de rester dans votre thème, qui est le rire. Hein. Mais par contre, on aura moins de temps que ce que nous avions prévu.
On va passer ça plus vite.
D'accord, Gérard.
Je commence avec le petit monde de Don Camillo.
Oh oui.
Chez Inca, avec... c'est M. Guarchi qui fait ça, G-U-A-R-E-S-C-H-I.
Oui.
C'est un récit comique qui est drôle, qui va à peine de... Vous savez, c'est on s'amuse, on rit, mais je dirais que on sourit de l'intérieur.
Mais surtout qu'il faut savoir que Don Camillo a été représenté par Fernandel à la télévision, alors avec son accent du Sud.
Ah, et c'est merveilleux.
Voilà.
C'est merveilleux, Fernandel, avec ses chansons des fois qu'il faisait.
Oui, c'est ça. Et il est prêtre dans une commune dont le maire est communiste. Hein.
Oui,
alors il se bouffe le nez continuellement. C'est à mourir de rire et c'est vrai. Alors, nous en avons d'autres.
OK. Ça, c'est un de mes choix. Il y avait « To Bib or Not To Bib »
oui.
D'Abbé Cassis. C'est un autre roman un peu plus spécial. Il y a un petit peu de psychiatrie là-dedans.
Oui.
Mais ça nous fait rire, ça nous fait sourire. Et surtout, ça nous fait réfléchir des fois à des attitudes qu'on peut avoir. Ça, je trouvais ça intéressant de ce côté-là.
Oui, puis les questions de télépathie, de télékinésie, de tout ça.
Télépathie, la mémoire, etc.
Ah, ça j'adore, là. Le suivant, j'adore le titre.
Manière d'aborder de service pour avoir une augmentation de salaire.
Oui.
Et ça, c'est Pérec. Pérec, on le connaît bien.
Oui.
Et c'est vraiment vraiment une espèce de plaidoyer en faveur d'avoir une bonne augmentation de salaire. Peut-être que nos gens qui discutent présentement avec le gouvernement du Québec devraient lire ça. Leur souhaite. Et ça, on trouve ça chez OSQLA.
D'accord.
Et matière à rire aussi par Raymond Devaux. Je n'ai pas besoin de présenter Raymond Devaux. Nos auditeurs le connaissent. C'était un des plus grands qu'on a eu depuis les derniers 60 ans, 75 ans. Mm-hmm. Et il nous a fait tellement rire que juste évoquer son nom, on commence à sourire.
Ah, absolument.
C'est merveilleux. C'est de bonnes histoires. C'est agréable, oui. C'est léger, etc. Et mon dernier cheveu noir avec quelques conseils aux plus jeunes, c'est Jean-Louis Fournier. Jean-Louis Fournier écrit beaucoup de romans d'humour.
Oui.
Beaucoup. Et c'est une façon, c'est un aspect de la vie qu'il a voulu développer. Et moi, je trouvais ça intéressant, puis ça se lit assez vite, et c'est très agréable. Puis je termine sur mon choix de livre. J'ai pris Samantha, Bonne à rien faire.
Qu'est-ce
et ça,
que c'est?
C'est un
ça?
Roman
oui.
de Kinsella.
Kinsella, K-I-N-S-E-L-L-A, oui.
S-E-L-L-A. Mais ça, il faut le lire.
Oui.
Il faut le lire, il est disponible à l'ECA. C'est une personne qui décide, c'est qu'une avocate qui veut absolument devenir actionnaire dans son bureau.
OK.
Et la journée où elle va être reçue, associée, elle s'aperçoit qu'elle a fait une erreur de 50 millions de dollars.
Okay,
et là, ça va mal, à part. Elle prend le train, elle est dans Londres, elle prend le train, elle débarque au bout d'une heure, puis elle a soif, elle arrive à une maison, puis elle dit, voulez-vous me donner de l'eau? Ah, il a dit, vous êtes la nouvelle boniche qu'on attendait. Et elle a jamais...
Et moi, je vais vous dire au revoir. Et moi, je vais vous dire au revoir, mon Gérard, parce que c'est tout le temps qu'on avait. On vous embrasse. Au revoir.
À tout le monde. Salut.